L'État laisse autant que possible les individus jouer librement, pourvu qu'ils ne prennent pas leur jeu au sérieux et ne le perdent pas de vue, lui, l'État. Il ne peut s'établir d'homme à homme de relations qui ne soient inquiétées, sans surveillance et intervention supérieure. Je ne puis pas faire tout ce dont je serais capable, mais seulement ce que l'État me permet de faire. Je ne puis faire valoir ni mes pensées, ni mon travail, ni en général rien de ce qui est à moi. L'État ne poursuit jamais qu'un but, limiter, enchaîner, assujettir l'individu, le subordonner à une généralité quelconque. Il ne peut subsister qu'à condition que l'individu ne soit pas pour soi-même tout dans tout. Il implique de toute nécessité la limitation du moi, ma mutilation et mon esclavage. Jamais l'État ne se propose de stimuler la libre activité de l'individu. La seule activité qui l'encourage est celle qui se rattache au but que lui-même poursuit. Jamais non plus l'État n'est capable de produire rien de collectif. On ne peut pas dire qu'un tissu est l'œuvre collective des différentes parties d'une machine. Il est plutôt l'œuvre de toute la machine considérée comme une unité. Il en est de même de tout ce qui sort de la machine de l'État, car l'État est le ressort qui met en mouvement les rouages des esprits individuels dont aucun ne suit sa propre impulsion. L'État cherche par sa censure, sa surveillance et sa police à enrayer toute activité libre. En jouant ce rôle de bâton dans les roues, il croit, avec raison d'ailleurs, car sa conservation est à ce prix, remplir son devoir. L'État veut faire de l'homme quelque chose, il veut le façonner. Aussi l'homme, en tant que vivant dans l'État, n'est-il qu'un homme factice. Quiconque veut être soi-même est l'adversaire de l'État et n'est rien. Il n'est rien signifie, l'État ne l'utilise pas, ne lui accorde aucun titre, aucun emploi, aucune commission, etc. Edgar Boer, dans ses revendications libérales, rêve d'un gouvernement qui, issu du peuple, ne puisse jamais se trouver en opposition avec lui. Il est vrai qu'il retire lui-même le mot « gouvernement ». Dans une république, il ne peut y avoir de gouvernement. Il n'y a de place que pour un pouvoir exécutif. Pure et simple émanation du peuple, ce pouvoir ne pourrait lui opposer ni une puissance indépendante, ni des principes et des fonctionnaires à lui. Il n'aurait d'autre fondement, et son autorité et ses principes n'auraient d'autre source que le peuple, unique et suprême puissance de l'État. La notion de gouvernement est incompatible avec celle d'État démocratique. Mais cela revient au même. Tout ce qui émane, découle ou dérive d'une chose en devient indépendant et, comme l'enfant sorti du sein de la mère, se met immédiatement en opposition avec elle. Le gouvernement, sans ce caractère d'indépendance et d'opposition, ne sera rien du tout. Dans l'État libre, il n'y a pas de gouvernement, etc. Ceci veut simplement dire que le peuple, lorsqu'il est souverain, ne se laisse pas régenter par une puissance supérieure. Mais en est-il autrement dans la monarchie absolue ? Qui dit souverain exclut toute idée d'une puissance supérieure. Que le souverain s'appelle prince ou peuple, jamais il ne peut y avoir un gouvernement au-dessus de lui. Cela va de soi. Mais dans tout État, absolu, républicain ou libre, il y aura toujours un gouvernement au-dessus de moi, et je ne me trouverai pas mieux de l'un que de l'autre. La République n'est qu'une monarchie absolue, car peu importe que le souverain s'appelle prince ou peuple, l'un et l'autre sont une majesté. Le régime constitutionnel démontre précisément que personne ne veut et ne peut se résigner à n'être qu'un instrument. Les ministres dominent leur maître, le prince, et les députés dominent leur maître, le peuple. Le prince doit se conformer à la volonté des ministres et le peuple doit se laisser mener par le bout du nez où il plaît aux chambres de le conduire. Le constitutionnalisme va plus loin que la République, attendu que l'État y est conçu comme en dissolution. Edgar Boer nie que dans l'État constitutionnel, le peuple était une personnalité. Et dans la République ? Dans l'État constitutionnel, le peuple est un parti, et un parti est bien une personne. s'il vous plaît, de parler d'une personne morale ou politique. Le fait est qu'une personne morale, qu'on la baptise parti populaire, peuple ou encore le seigneur, n'est nullement une personne, mais un fantôme. Plus loin, Edgar Boer ajoute « La tutelle est la caractéristique de tout gouvernement. En vérité, elle est plus encore celle d'un peuple et d'un État démocratique. Elle est le caractère essentiel de toute archie. Un État démocratique qui résume en lui toute puissance, qui est maître absolu, ne peut pas me laisser devenir majeur et user de mes forces. Et quel enfantillage de ne plus vouloir donner aux fonctionnaires élus par le peuple le nom de serviteurs et d'instruments, sous prétexte qu'ils sont les exécuteurs de la volonté libre et raisonnable que le peuple exprime dans ses lois. Il ne peut être mis d'unité dans l'État, dit-il encore, qu'en subordonnant toutes les administrations aux intentions du gouvernement. Mais son État démocratique doit, lui aussi, avoir de l'unité. Comment s'y passer de la subordination, de la soumission à la volonté du peuple ? Dans un État constitutionnel, tout l'édifice gouvernemental repose en définitive sur le régent et dépend de son sentiment. Comment pourrait-il en être autrement dans un État démocratique ? N'y serais-je pas également régi par le sentiment populaire, et cela fait-il pour moi une grande différence de dépendre des sentiments d'un prince ou de dépendre des sentiments du peuple, de ce qu'on nomme l'opinion publique ? Si, comme Edgar Boer le dit avec raison, dépendance équivaut à rapport religieux, le peuple restera pour moi, dans un État démocratique, une puissance supérieure, une majesté. La majesté est proprement l'essence du Dieu et du prince, avec laquelle je serai dans un rapport religieux. Et le peuple souverain serait irresponsable comme l'est le régent constitutionnel. Tous les efforts d'Edgar Boer aboutissent à un changement de maître. Au lieu de vouloir libérer le peuple, il aurait dû s'occuper de la seule liberté réalisable, de la sienne. Dans l'État constitutionnel, l'absolutisme a fini par entrer en lutte avec lui-même parce qu'il a abouti à un antagonisme. Le gouvernement veut être absolu et le peuple veut être absolu. Ces deux absolus se détruiront l'un l'autre. Edgar Boer s'indigne de ce que le roi constitutionnel soit donné par la naissance, c'est-à-dire par le hasard. Mais quand le peuple sera devenu l'unique puissance dans l'État, n'est-ce pas à un hasard pareil que nous devrons de l'avoir pour maître ? Qu'est-ce donc que le peuple ? Le peuple n'a jamais été que le corps du gouvernement. C'est plusieurs corps sous un même bonnet, couronne de prince, ou plusieurs corps sous une même constitution. Et la constitution est le prince. Princes et peuples ne peuvent subsister que tant qu'ils ne s'identifient pas. Quand plusieurs peuples sont réunis sous une même constitution, comme cela s'est vu par exemple dans l'ancienne monarchie perse et se voit encore aujourd'hui, ces peuples ne comptent plus que pour des provinces. En face de moi, en tout cas, le peuple n'est qu'une puissance fortuite. C'est une force de la nature, un ennemi que je dois vaincre. Que faut-il entendre par un peuple organisé ? Un peuple qui n'a plus de gouvernement et qui se gouverne lui-même ? Donc, dans lequel aucun moi ne dépasse le niveau. Un peuple organisé par l'ostracisme. L'ostracisme, le bannissement des mois, fait du peuple son propre gouverneur. Si vous parlez d'un peuple, il faut aussi parler d'un prince. Car pour être, pour vivre et pour faire de l'histoire, le peuple doit, comme tout ce qui agit, avoir une tête, un chef. C'est ce que Proudhon exprime en disant « Une société, pour ainsi dire, acéphale, ne peut vivre. » On invoque à chaque instant aujourd'hui la vox populi. L'opinion publique doit gouverner les princes. Il est bien certain que la vox populi est en même temps vox dei. Mais à quoi bon l'une et l'autre ? Et la vox principis n'est-elle pas aussi vox dei ? On peut ici se rappeler les nationalistes. Vouloir faire des 38 États de l'Allemagne une nation est aussi absurde que d'entreprendre de réunir en un seul essaim 38 essaims d'abeilles conduits par leurs 38 reines. Toutes sont des abeilles, mais ce n'est pas en tant qu'abeilles qu'elles tiennent les unes aux autres et peuvent s'unir. Elles sont simplement, comme abeilles sujettes, liées à leur souveraine, les reines. Abeilles et peuple sans volonté, et l'instinct de leur reine les conduit. En rappelant aux abeilles la qualité d'abeille qui leur est commune, on ferait exactement ce que l'on fait si bruyamment aujourd'hui lorsqu'on rappelle aux Allemands leur qualité d'Allemand. Le fait d'être Allemand a de commun avec le fait d'être abeille qu'il renferme en soi la nécessité de scission et de séparation, sans cependant impliquer la séparation derrière, celle qui, en accomplissant la séparation radicale, en ferait sortir en même temps la fin de toute séparation. J'entends la séparation de l'homme avec l'homme. La qualité d'Allemand est partagée par divers peuples et diverses tribus, c'est-à-dire par diverses ruches d'abeilles. Mais l'individu qui a la propriété d'être un Allemand est encore tout aussi impuissant que l'abeille isolée. Et cependant, seuls les individus peuvent s'allier. Toutes les alliances et toutes les ligues entre peuples sont et resteront des assemblages mécaniques, parce que ceux qui sont ainsi unis, du moment que l'on considère que ce sont les peuples qui s'unissent, n'ont pas de volonté. Ce n'est que lorsque l'ultime séparation aura eu lieu que la séparation elle-même cessera pour se transformer en alliance. Les nationalistes s'efforcent de faire une unité abstraite et sans vie de tout ce qui est abeille. Les individualistes, eux, lutteront pour l'unité personnellement voulue qui naît de l'association. C'est la marque de toutes les tendances réactionnaires de vouloir instaurer quelque chose de général, d'abstrait, un concept creux et sans vie, tandis que les vœux des égoïstes tendent à délivrer les individus pleins de vie et de vigueur du fait des généralités abstraites. Les réactionnaires voudraient faire jaillir de terre un peuple, une nation. Les égoïstes n'ont en vue qu'eux-mêmes. Au fond, les deux tendances actuellement à l'ordre du jour, la tendance particulariste au rétablissement des droits provinciaux et des anciennes distinctions de race, francs, bavarois, etc., Lusace, etc., et la tendance unitaire au rétablissement de l'unité nationale ont même origine et même signification. Les Allemands ne seront unis, c'est-à-dire ne s'uniront, que du jour où ils auront envoyé au diable leur qualité d'abeille et jeté par terre toutes leurs ruches, ou, en d'autres termes, du jour où ils seront plus qu'Allemands. Alors seulement ils pourront former une association allemande. Ce n'est ni dans leur nationalité, ni dans le ventre de leur mère qu'ils doivent rentrer pour parvenir à une renaissance. Que chacun rentre en soi-même. N'est-ce pas un spectacle sentimental prodigieusement ridicule que celui d'un Allemand qui serre la main à son voisin avec une sainte émotion parce que lui aussi est un Allemand ? Le voilà bien avancé. Mais ne riez pas, cela passera pour fort touchant tant qu'on rêvera encore de fraternité et que la voix du sang ne se sera pas tue. Nos nationalistes qui prétendent fabriquer une grande famille allemande sont incapables de se délivrer de la superstition de la piété, de la fraternité, de l'amour filial et de tous les poncifs sentimentaux qui composent le répertoire de l'esprit de famille. Il suffirait pourtant aux sudis nationalistes de bien comprendre eux-mêmes ce qu'ils veulent pour ne plus se livrer aux embrassades des teutomanes à romance, car la coalition en vue de résultats et d'intérêts matériels qu'ils prônent aux Allemands n'est qu'une association volontaire, active et spontanée. L'impersonnalité de ce qu'on nomme peuple et nation éclate dans ce fait qu'un peuple qui veut faire tout son possible pour mettre son moi en valeur place à sa tête un chef sans volonté. Il ne peut échapper à ce dilemme ou bien d'être asservi à un prince qui ne réalise que lui-même et son bon plaisir personnel, et dans ce cas, il ne reconnaîtra pas dans ce maître absolu sa propre volonté, la volonté populaire, ou bien hisser sur le trône un prince soliveau qui ne témoigne d'aucune volonté personnelle, et dans ce second cas, il aura un prince sans volonté qu'on pourrait, sans aucun inconvénient, remplacer par un mécanisme d'horlogerie bien réglé. De ces considérations, il résulte, clair comme le jour, que le moi du peuple est une puissance impersonnelle, spirituelle. la loi. Le moi du peuple est par conséquent un fantôme et non un moi. Je ne suis un moi que parce que c'est moi qui me fais, c'est-à-dire parce que je ne suis pas l'œuvre d'un autre, mais proprement mon œuvre. Et qu'est-ce que le moi du peuple? Un hasard le lui donne, les circonstances lui imposent tel ou tel maître héréditaire, ou lui procurent le chef qui l'élit. Il n'est pas son produit, le produit du peuple souverain, comme je suis mon produit. Figure-toi que l'on te veuille persuader que tu n'es pas toi, mais que toi, c'est Pierre ou Paul. C'est ce qui arrive au peuple, et il ne pourrait en être autrement. Attendu que le peuple n'a pas plus un moi que les 11 planètes assemblées n'en ont un. Encore qu'elles gravitent autour d'un centre commun. Pendant longtemps, l'homme a passé pour un citoyen du ciel. On voudrait en faire aujourd'hui, comme au temps des Grecs, un zoon politikon, un citoyen de l'État ou homme politique. Le Grec fut enseveli sous les ruines de son État, et le citoyen céleste tombera avec son ciel. Mais nous n'entendons pas que la nation, la nationalité ou le peuple nous entraîne dans leur chute, nous n'entendons point n'être que des animaux politiques. Depuis la Révolution, on cherche à faire le bonheur du peuple, et pour faire le peuple heureux, grand, etc., on nous rend malheureux. Le bonheur du peuple est mon malheur. On peut juger du vide que recouvrent de leur emphase les discours des libéraux politiques en feuilletant l'ouvrage de Nowerk sur la participation à l'État. L'auteur se plaint de l'indifférence et de l'apathie qui empêchent les gens d'être des citoyens dans toute l'acception du mot. Et il s'exprime comme s'il n'était possible d'être homme qu'à condition de prendre une part active à la vie de l'État, c'est-à-dire à condition de jouer un rôle politique. En cela, il est logique, car si on considère l'État comme le dépositaire et le gardien de toute l'humanité, nous ne pouvons avoir rien d'humain si nous n'y participons pas. Mais en quoi cela touche-t-il l'égoïste? En rien. Car l'égoïste est lui-même le gardien de son humanité, et la seule chose qu'il demande à l'État, c'est de sauter de son soleil. Ce n'est que si l'État vient toucher à sa propriété que l'égoïste sort de son indifférence. Si les affaires de l'État n'atteignent pas le savant enfermé dans son cabinet, doit-il s'en inquiéter parce que cette sollicitude est le plus sacré de ses devoirs? Tant que l'État ne se met pas en travers de ses études favorites, qu'a-t-il besoin de s'en laisser distraire? Que cela s'inquiète de la marche de l'État, qui sont personnellement intéressés à le voir rester comme il est ou changer. Ce n'est pas l'idée d'un devoir sacré à remplir qui pousse et qui poussera jamais personne à consacrer ses veilles à l'État, pas plus que ce n'est par devoir qu'on se fait disciple de la science artiste, etc. L'égoïsme seul peut y conduire. Démontrez aux gens que leur égoïsme exige qu'ils offrent leur concours à l'État et vous n'aurez pas besoin de les exhorter longtemps. Mais si vous faites appel à leur patriotisme, etc., vous prêcherez longtemps ce service d'amour à des cœurs sourds. Le fait est que jamais les égoïstes ne participeront, comme vous l'entendez, à la vie de l'État. Je trouve dans Nowerk une phrase imprégnée du plus pur libéralisme. L'homme n'accomplit sa mission que pour autant qu'il se sache et se sente membre de l'humanité, et qu'il agisse comme tel. Et plus loin, tel que les conçoit le théologien, les rapports de l'homme avec l'État se réduisent à n'être plus qu'une pure affaire privée, ce qui équivaut à les nier et les détruire. Et la religion, telle que le conçoit le politique, que devient-elle? Une affaire privée. Si au lieu de leur parler du devoir sacré, de la destination de l'homme, de la vocation d'être parfaitement humain et d'autres commandements de même espèce, on représentait aux gens le tort qu'ils font à leur intérêt en laissant aller l'État comme il va. On leur tiendrait, aux tirades près, le même langage qu'on leur tient dans les moments critiques quand on veut atteindre son but. Mais au lieu de cela, notre théologophobe s'écrie. S'il fut jamais un temps où l'État doit pouvoir compter sur tous les siens, c'est bien le nôtre. L'homme qui pense reconnaît dans la coopération théorique et pratique à l'État un devoir, et un des devoirs les plus sacrés qui peuvent lui incomber. Puis il examine de plus près la nécessité catégorique qu'il y a pour chacun de s'intéresser à l'État. Celui-là est un politicien et le restera de toute éternité, qui loge l'État dans sa tête ou dans son cœur, ou dans les deux à la fois. C'est un possédé de l'État, il a la foi. L'État est la condition indispensable du développement intégral de l'humanité. Certes, il le fut aussi longtemps que nous nous proposâmes de développer l'humanité. Mais maintenant que nous voulons nous développer, il ne peut plus nous être qu'un embarras. Peut-on encore se proposer, aujourd'hui, de réformer et d'améliorer l'État et le peuple? Pas plus que la noblesse, le clergé, l'Église, etc. On peut les suspendre, les détruire, les supprimer, mais non les réformer. Ce n'est pas en la réformant qu'on fait d'une absurdité une chose sensée. Mieux vaut la mettre immédiatement au rebut. Il ne doit plus, à l'avenir, être question de l'État, constitution de l'État, etc., mais de moi. Toutes les questions relatives à la puissance souveraine, à la constitution, etc., retombent ainsi dans l'abîme dont elles n'auraient pas dû sortir, leur néant. Moi, ce rien, je ferai jaillir de moi-même mes créations. Au chapitre de la société se rattache celui du parti dont on a en ces derniers temps chanté les louanges. Il y a dans l'État des partis. Mon parti. Qui voudrait ne pas prendre parti? Mais l'individu est unique et n'est pas membre d'un parti. Il s'unit librement et se sépare ensuite librement. Un parti n'est autre chose qu'un État dans l'État, et la paix doit régner dans ce petit essaim d'abeilles comme dans le grand. Ceux-là même qui proclament avec le plus d'énergie qu'il faut qu'il y ait dans l'État une opposition sont les premiers à s'indigner contre la discorde des partis. Preuve qu'eux non plus ne veulent qu'un État. C'est contre l'individu et non contre l'État que se brisent tous les partis. Il n'est rien qu'on entende plus souvent aujourd'hui que l'exhortation à rester fidèle à son parti. Les hommes de parti ne méprisent rien tant qu'un renégat. On doit marcher les yeux fermés à la suite de son parti et approuver et adopter sans réserve tous ses principes. En vérité, le mal n'est pas aussi grand ici que dans certaines sociétés qui lient leurs membres par les lois ou statuts fixes et immuables. Par exemple, les ordres religieux, la société de Jésus, etc. Mais le parti cesse d'être une association dès le moment où il veut rendre obligatoires certains principes et les mettre au-dessus de toute discussion et de toute atteinte. C'est précisément ce moment qui marque la naissance du parti. Sitôt le parti constitué, et en tant que parti, il est une société née, une alliance morte, une idée devenue idée fixe. Le parti de l'absolutisme ne peut tolérer chez aucun de ses membres le moindre doute sur la vérité du principe absolutiste. Ce doute ne leur serait possible que s'ils étaient assez égoïstes pour vouloir être encore quelque chose en dehors de leur parti, c'est-à-dire pour vouloir être impartiaux. Ils ne peuvent être impartiaux que comme égoïstes et non comme hommes de parti. Si tu es protestant, et si tu appartiens au parti qu'est le protestantisme, tu ne peux que maintenir ton parti dans la bonne voie. À la rigueur, tu pourrais le purifier, mais non le rejeter. Es-tu chrétien? Es-tu enrôlé dans le parti chrétien? Tu ne peux en sortir en tant que membre de ce parti. Si tu en transgresses la discipline, ce sera seulement lorsque ton égoïsme, c'est-à-dire ton impartialité, t'y poussera. Quelques efforts qu'aient fait les chrétiens, jusqu'à Hegel et aux communistes inclusivement, pour fortifier leur parti, ils en sont restés à ceci. Le christianisme, devant renfermer la vérité éternelle, il suffit de l'en extraire, de la démontrer et de la faire accepter. Bref, le parti est contradictoire à l'impartialité, et cette dernière est une manifestation de l'égoïsme. Que m'importe d'ailleurs le parti ? Je trouverai toujours assez de compagnons qui se réuniront à moi sans prêter serment à mon drapeau. Si quelqu'un passe d'un parti à l'autre, on l'appelle immédiatement transfuge, déserteur, renégat, apostat, etc. La morale, en effet, exige que l'on adhère fermement à son parti. Le trahir, c'est se souiller du crime d'infidélité, mais l'individualité, elle, ne connaît ni fidélité, ni dévouement de précepte. Elle permet tout, y compris l'apostasie, la désertion et le reste. Les moraux eux-mêmes se laissent inconsciemment diriger par le principe égoïste quand ils ont à juger quelqu'un qui abandonne son parti pour se rallier au leur. Bien mieux, ils ne se font aucun scrupule d'aller racoler des partisans dans le camp opposé. Ils devraient seulement avoir conscience d'une chose, c'est qu'il faut agir d'une façon immorale pour agir d'une façon personnelle. Ce qui revient ici à dire qu'il faut savoir rompre sa foi et même son serment si l'on veut se déterminer soi-même au lieu de se laisser déterminer par des considérations morales. Un apostat se peint toujours sous des couleurs douteuses aux yeux des gens de moralité sévère. Ils ne lui accorderont pas facilement leur confiance car il s'est souillé d'une trahison, c'est-à-dire d'une immoralité. Ce sentiment est presque général chez les gens de culture inférieure. Les plus éclairés sont sur ce point, comme sur tous, incertains et troublés. La confusion de leurs idées ne leur permet pas d'avoir clairement conscience de la contradiction où les accule nécessairement le principe de moralité. Ils n'osent pas accuser franchement l'apostolat d'immoralité, car eux-mêmes prêchent en somme l'apostasie, le passage d'une religion à une autre, etc. D'autre part, ils n'osent pas abandonner leur point d'appui dans la moralité. Quelle excellente occasion, pourtant, de la jeter par-dessus bord. Les individus, ou uniques, sont-ils d'un parti? Et comment pourraient-ils être uniques s'ils appartenaient à un parti? Ne peut-on donc être d'aucun parti? Entendons-nous. En entrant dans votre parti et dans vos cercles, je conclus avec vous une alliance qui durera aussi longtemps que votre parti et moi poursuivrons le même but. Mais si aujourd'hui je me rallie encore à son programme, demain peut-être je ne pourrai plus le faire, et je lui deviendrai infidèle. Le parti n'a pour moi rien qui me lie, rien d'obligatoire, et je ne le respecte pas. S'il cesse de me plaire, je me retourne contre lui. Les membres de tout parti qui tient à son existence et à sa conservation ont d'autant moins de liberté, ou plus exactement, d'autant moins de personnalité, et ils manquent d'autant plus d'égoïsme qu'ils se soumettent plus complètement à toutes les exigences de ce parti. L'indépendance du parti implique la dépendance de ses membres. Un parti, quel qu'il soit, ne peut jamais se passer d'une profession de foi, car ses membres doivent croire à son principe et ne peuvent le mettre en doute ni le discuter. Il doit être pour eux un axiome certain et indubitable. En d'autres termes, on doit appartenir corps et âme à son parti, sinon on n'est plus véritablement un homme de parti, on est plus ou moins un égoïste. Que le moindre doute s'élève chez toi au sujet du christianisme, et tu ne seras plus un vrai chrétien, toi qui auras eu l'impiété grande d'examiner le dogme et de traîner le christianisme devant le tribunal de ton égoïsme. Tu te seras rendu coupable envers le christianisme, cette affaire de parti parce qu'il n'est pas l'affaire par exemple des juifs, qui sont d'un autre parti. Mais tant mieux pour toi, si un péché ne t'épouvante pas, ton audacieuse impiété va t'aider à atteindre l'individualité. Ainsi donc, un égoïste ne pourra jamais embrasser un parti. Il ne pourra jamais prendre parti. Mais si, il le peut parfaitement, pourvu qu'il ne se laisse pas saisir et enchaîner par le parti. Le parti n'est jamais pour lui qu'une partie, il est de la partie, il prend part. Le meilleur état est évidemment celui qui renferme les citoyens les plus fidèles à la loi. À mesure que le noble sentiment de la légalité languit et s'éteint, l'État, qui est un système de moralité, et la vie morale elle-même, voit baisser ses forces et décroître ses biens. Avec les bons citoyens, disparaît le bon État. Il sombre dans l'anarchie. Respect à la loi, tel est le ciment qui maintient debout tout l'édifice d'un État. La loi est sacrée, celui qui la viole est un criminel. Sans le crime, pas d'État. Le monde moral, et c'est l'État, est plein de fripons, de trompeurs, de menteurs, de voleurs, etc. L'État étant la souveraineté de la loi et sa hiérarchie, l'égoïste ne peut parvenir à ses fins que par le crime, dans tous les cas où son intérêt est opposé à celui de l'État. L'État ne peut cesser d'exiger que ses lois soient tenues pour sacrées. Aussi l'individu est-il aujourd'hui, vis-à-vis de l'État, exactement ce qu'il était jadis, vis-à-vis de l'Église, un profane, un barbare, un homme naturel, un égoïste, etc. Devant l'individu, l'État se ceint d'une auréole de sainteté. Il fait, par exemple, une loi sur le duel. Deux hommes qui conviennent de risquer leur vie afin de régler une affaire, quelle qu'elle soit, ne peuvent exécuter leur convention parce que l'État ne le veut pas. Ils s'exposeraient à des poursuites judiciaires et à un châtiment. Que devient la liberté de l'arbitre? Il en est tout autrement là où, comme en Amérique du Nord, la société décide de faire subir aux duellistes certaines conséquences désagréables de leur acte et leur retire, par exemple, le crédit dont ils avaient joui antérieurement. Refuser son crédit est l'affaire de chacun, et s'il plaît à une société de le retirer à quelqu'un, pour l'une ou l'autre raison, celui qu'elle frappe ne peut pas se plaindre d'une atteinte à sa liberté. La société n'a fait qu'user de la sienne. Il ne s'agit plus ici d'une expiation ni du châtiment d'un crime. En Amérique du Nord, le duel n'est pas un crime. C'est un acte contre lequel la société prend des mesures de prudence et de préserve. L'État, au contraire, qualifie le duel crime, c'est-à-dire violation de sa loi sacrée. Il en fait une affaire criminelle. La société dont nous parlions laisse l'individu parfaitement libre de s'exposer aux suites funestes ou désagréables qu'entraînera sa manière d'agir, et laisse pleine et entière sa liberté de vouloir. L'État fait précisément le contraire. Il dénie toute légitimité à la volonté de l'individu et ne reconnaît comme légitime que sa propre volonté, la loi de l'État. Il en résulte que celui qui transgresse les commandements de l'État peut être considéré comme violant des commandements de Dieu, opinion d'ailleurs que l'Église a soutenue. Dieu est la sainteté en soi et pour soi, et les commandements de l'Église, comme ceux de l'État, sont les ordres que cette sainteté donne au monde par l'intermédiaire de ses prêtres ou de ses maîtres de droit divin. L'Église avait les péchés mortels. L'État a les crimes qui entraînent la mort. Elle avait ses hérétiques, il a ses traîtres. Elle avait des pénitences, il a des pénalités. Elle avait les inquisiteurs, il a les agents du fisc. Bref, à l'une le péché, à l'autre le crime. Là le pécheur, ici le criminel. Là l'inquisition, et ici encore l'inquisition. La sainteté de l'État ne tombera-t-elle pas comme est tombée la sainteté de l'Église ? La crainte de ses lois, le respect de sa majesté, la misère et l'humiliation de ses sujets, tout cela va-t-il durer ? Ne viendra-t-il pas un jour où l'on cessera de se prosterner devant l'image du saint ? Quelle folie d'exiger que le pouvoir de l'État lutte à âme courtoise avec l'individu et, comme on l'a dit à propos de la liberté de la presse, partage avec son adversaire le vent et le soleil. Pour que l'État, cette idée, ait un pouvoir réel, il doit être une puissance supérieure à l'individu. L'État est sacré, donc il ne peut pas prêter le flanc aux attaques impies des individus. Si l'État est sacré, il faut une censure. Les libéraux politiques admettent les prémices et nient la conséquence. Toutefois, ils accordent à l'État les mesures de répression, car il est bien convenu, et ils n'en démordent pas, que l'État est plus que l'individu et que sa vengeance, qu'il a peine ou châtiment, est légitime. Le mot « peine » n'a de sens que s'il désigne la pénitence infligée au profanateur d'une chose sacrée. Celui qui tient une chose pour sacrée mérite évidemment qu'une peine lui soit infligée dès qu'il s'y attaque. Un homme qui épargne une vie humaine parce que cette vie lui est sacrée et que l'idée d'y attenter lui fait horreur est un homme religieux. Wettling impute au désordre social tous les crimes qui se commettent, et il espère que sous le régime communiste, les crimes deviendront impossibles, les mobiles, l'argent par exemple, en ayant disparu. Mais son bon naturel l'égare. car la société organisée, telle qu'il l'entend, sera elle aussi sacrée et inviolable. Il n'y manquera pas de gens qui, la bouche pleine de professions de foi communistes, travailleront sous main à sa ruine. Somme toute, Watling est bien obligé de s'en tenir aux moyens curatifs, à opposer aux maladies et aux faiblesses inséparables de la nature humaine, mais ce mot curatif n'indique-t-il pas déjà que l'on considère les individus comme voués à une certaine cure et qu'on va leur appliquer les remèdes qu'appelle leur nature d'homme ? Le remède et la cure ne sont que l'autre face du châtiment et de l'amendement. La thérapeutique du corps fait le pendant de la diététique de l'âme. Si celle-ci voit dans une action un péché contre le droit, celle-là y voit un péché de l'homme contre lui-même, le dérangement de sa santé. Ne vaudrait-il pas mieux considérer simplement ce que cette action a de favorable ou de défavorable pour moi, et voir si elle m'est amie ou ennemie ? Je la traiterai alors comme ma propriété, c'est-à-dire que je la conserverai ou la détruirai à mon gré. Crime et maladie ne sont point des noms qui s'appliquent à une conception égoïste des choses qu'ils désignent. Ce sont des jugements portés non par moi, mais par un autre, sur l'offense faite au droit en général, ou à la santé, que ce soit la santé de l'individu, du malade, ou de la généralité, de la société. On n'a aucun ménagement pour le crime, tandis qu'on use, envers la maladie, de douceur, de compassion, etc. Le crime est suivi du châtiment. Si le sacré disparaît, entraînant le crime avec lui, le châtiment doit disparaître également, car lui non plus n'a de signification que par rapport au sacré. On a aboli les peines ecclésiastiques. Pourquoi ? Parce que la façon dont il se comporte envers le saint Dieu est l'affaire de chacun. Comme est tombée la peine ecclésiastique, doivent tomber toutes les peines. Si le péché envers son Dieu est l'affaire personnelle de chacun, il en est de même du péché envers tout sacré, quel qu'il soit. Suivant la doctrine de notre droit pénal, que l'on s'efforce vainement de rendre moins anachronique, on punit les hommes de telle ou telle inhumanité, et l'on démontre ainsi par l'absurdité de leurs conséquences la niaiserie de ces théories qui font pendre les petits voleurs et laissent courir les grands. Pour un attentat contre la propriété, on a le bagne, et pour un viol de pensée, pour l'oppression des droits naturels de l'homme, on n'a que des représentations et des prières. Le code pénal n'existe que grâce au sacré et disparaîtra de lui-même quand on renoncera au châtiment. Partout, actuellement, on veut créer un nouveau code pénal sans éprouver le moindre scrupule au sujet des pénalités à édicter. C'est pourtant justement la peine qui doit disparaître pour faire place à la satisfaction. Satisfaction, encore une fois, non point du droit ou de la justice, mais de nous. Si quelqu'un nous fait ce que nous ne voulons pas qu'il nous soit fait, nous brisons sa puissance et nous faisons prévaloir la nôtre. Nous nous donnons satisfaction à son égard sans faire la folie de vouloir donner satisfaction au droit, au fantôme. C'est l'homme qui doit se défendre contre l'homme, et ce n'est pas le sacré, pas plus que ce n'est Dieu qui se défend contre l'homme. Encore que jadis, et parfois aussi de nos jours, on ait vu tous les serviteurs de Dieu lui prêter main forte pour châtier l'impie, comme il prête aujourd'hui main forte au sacré. De ce dévouement au sacré, il résulte que, sans y avoir d'intérêt vital et personnel, on livre des malfaiteurs aux griffes de la police et des tribunaux. On donne procuration aux autorités constituées pour qu'elles administrent pour le mieux le domaine du sacré et on reste neutre. Le peuple met une véritable rage à exciter la police contre tout ce qui lui semble immoral ou souvent simplement inconvenant. Et cette rage de moralité qui possède le peuple est pour la police une protection bien plus sûre que celle que pourrait lui assurer le gouvernement. C'est par le crime que l'égoïste s'est toujours affirmé et a renversé d'une manière sacrilège les saintes idoles de leurs piédestaux. Rompre avec le sacré ou, mieux encore, rompre le sacré peut devenir général. Ce n'est pas une nouvelle révolution qui approche, mais puissant, orgueilleux, sans respect, sans honte, sans conscience, un crime ne gronde-t-il pas avec le tonnerre à l'horizon, et ne vois-tu pas que le ciel, lourd de pressentiments, s'obscurcit et se tait? Celui qui se refuse à dépenser ses forces pour des sociétés aussi restreintes que la famille, le parti ou la nation, aspire encore toujours à une société de signification plus haute. Lorsqu'il a découvert la société humaine ou l'humanité, il croit avoir trouvé l'objet véritablement digne de son culte auquel il mettra son honneur à se sacrifier. À partir de ce moment, sa vie et ses services appartiennent à l'humanité. Le peuple est le corps, l'État est l'esprit de cette personne souveraine qui m'a jusqu'ici opprimé. On a voulu transfigurer le peuple et l'État en les élargissant jusqu'à y voir respectivement l'humanité et la raison universelle. Mais ce magnificat n'aboutit qu'à rendre la servitude plus lourde. Philanthropes et humanitaires sont des maîtres aussi absolus que les politiciens et les diplomates. Les critiques contemporains déclament contre la religion parce qu'en plaçant Dieu, le divin, le moral, etc., en dehors de l'homme, elle en fait quelque chose d'objectif, tandis que, au contraire, préfère laisser ses sujets dans l'homme. Mais ils n'en versent pas moins dans l'ornière religieuse et ils imposent eux aussi une vocation à l'homme en le voulant divin, humain, etc. Moralité, liberté, humanité, etc. doivent être son essence. La politique, comme la religion, prétendit se charger de l'éducation de l'homme, le conduire à la réalisation de son essence et de sa destination. En un mot, faire de lui quelque chose, c'est-à-dire en faire un véritable homme. L'une entend par là un vrai croyant, l'autre un vrai citoyen ou un véritable sujet. En somme, que vous appeliez ma vocation divine ou humaine, cela revient au même. Religion et politique placent l'homme sur le terrain du devoir. Il doit devenir ceci ou cela, il doit être ainsi et non autrement. Avec ce postulat, ce commandement, chacun s'élève non seulement au-dessus des autres, mais encore au-dessus de lui-même. Nos critiques disent « Tu dois être complètement homme, tu dois être un homme libre ». Eux aussi sont en train de proclamer une nouvelle religion et d'ériger un nouvel idéal absolu, un idéal qui sera la liberté. Les hommes doivent être libres. Il n'y aurait pas à s'étonner de voir paraître des missionnaires de la liberté semblables aux missionnaires de la foi que le christianisme, convaincu que tous les hommes étaient destinés à devenir chrétiens, envoyait à la conquête du monde païen. Et de même que, jusqu'à présent, la foi s'est constituée en Église et la moralité en État, la liberté pourrait suivre leur exemple et se constituer en une communion nouvelle, qui pratiquerait à son tour la propagande. Il n'y a évidemment aucune raison de s'opposer à un essai d'association quel qu'il soit, mais il faut s'opposer d'autant plus énergiquement à toute résurrection de l'ancienne charge d'âme, de la tutelle, bref, au principe qui veut que l'on fasse de nous quelque chose, que ce soit des chrétiens, des sujets ou des affranchis et des hommes. On peut bien, avec Feuerbach et d'autres, dire que la religion a dépouillé l'homme de l'humain et qu'elle a transporté cet humain dans un au-delà si lointain qu'il y devient inaccessible et qu'il acquiert une existence propre et y prend la forme d'une personne, d'un dieu. Mais là n'est pas toute l'erreur de la religion. On pourrait fort bien cesser de croire à la personnalité de la part d'humanité qui fut retirée à l'homme, on pourrait fort bien transformer le dieu en divin et rester nonobstant religieux. Car être religieux, c'est n'être pas pleinement satisfait de l'homme présent. C'est imaginer une perfection qui doit être atteinte et se figurer l'homme comme tendant à se parfaire. C'est pourquoi vous devez devenir parfait comme l'est votre Père Céleste. Matthieu, verset 48. Être religieux, c'est se fixer un idéal, un absolu. La perfection est le suprême bien. Le finis bonorum est l'idéal de chacun et l'homme parfait, le véritable homme, l'homme libre, etc. Les efforts de l'époque actuelle tendent à instaurer en guise d'idéal l'homme libre. Si l'on y parvenait, cet idéal nouveau aurait pour conséquence une nouvelle religion, de nouvelles aspirations, de nouveaux tourments, une nouvelle dévotion, une nouvelle divinité, de nouveaux remords. L'idéal de la liberté absolue a fait divaguer comme le fait tout absolu. D'après Hesse, par exemple, cette liberté absolue serait réalisable dans la société humaine absolue. Et un peu plus bas, le même auteur appelle cette réalisation une vocation et définit la liberté une moralité. Il faut inaugurer le règne de la justice et de la moralité. Vous vous gaussez de celui qui, tandis que les membres de sa tribu, de sa famille, de sa nation, etc., peinent et méritent, se borne à se gonfler glorieusement des hauts faits de ses compagnons. Non moins aveugle est celui qui met toute sa gloire à être homme. Ni lui, ni le parasite glorieux de tantôt, ne fondent le sentiment de leur valeur sur une exclusion, mais sur une connexion, sur le lien qui les unit aux autres. Lien du sang, lien de la nationalité ou lien de l'humanité. Les nationalistes d'aujourd'hui ont rallumé la discussion entre ceux qui pensent n'avoir dans les veines qu'un sang purement humain et n'être liés que par des liens purement humains et ceux qui se targuent d'un sang spécial et de liens spéciaux. Si nous considérons l'orgueil comme la conscience d'une valeur, valeur qui peut être surfaite, mais peu importe, nous constatons une différence énorme entre l'orgueil d'appartenir à une nation, c'est-à-dire d'être la propriété de cette nation, et l'orgueil de nommer une nationalité sa propriété. Ma nationalité est un de mes prédicats, une de mes propriétés, tandis que la nation est ma propriétaire et ma maîtresse. Si tu possèdes la force physique, tu pourras l'employer en temps utile et elle pourra te procurer cette satisfaction de connaître ta valeur qu'on appelle orgueil. Mais si c'est ton grand vigoureux corps qui te possède, il te poussera partout et au moment les moins opportuns à exhiber sa vigueur. Tu ne pourras serrer la main à personne sans la lui écraser. Une fois parvenu à se convaincre que l'on est plus que le membre d'une famille, le fils d'une race, l'individu d'un peuple, etc., on en arrive finalement à dire « On est plus que tout cela parce qu'on est homme ou encore, l'homme est plus que le juif, l'allemand, etc. » Que chacun soit donc entièrement et uniquement homme. Mais ne vaudrait-il pas mieux dire, si nous sommes plus que ne peuvent exprimer tous les noms qu'on nous donne, nous voulons être plus qu'homme pour la même raison que vous voulez être plus que juif et plus qu'allemand. Les nationalistes ont raison. On ne peut pas renier sa nationalité. Mais les humanitaires aussi ont raison. On ne doit pas se renfermer dans les bornes étroites de sa nationalité. C'est à l'individualité à résoudre cette contradiction. La nationalité est ma propriété, mais je ne tiens pas tout entier dans une de mes propriétés. L'humanité aussi est ma propriété, mais c'est moi seul qui, par mon unicité, donne à l'homme son existence. L'histoire cherche l'homme, mais l'homme, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Après l'avoir pris pour un être mystérieux, une divinité, et l'avoir cherché dans le Dieu d'abord, puis dans l'homme, l'humanité, le genre humain, je l'ai enfin trouvé dans l'individu borné et passager, dans l'unique. Je suis possesseur de l'humanité, je suis l'humanité, et je ne fais rien pour le bien d'une autre humanité. Tu es fou, toi, qui, étant une humanité unique, te guindes afin de vivre pour une autre que celle que tu es toi-même.